BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie.
Et soyez tous et toutes les bienvenus pour cette nouvelle édition de Tout pour investir TPI en direct dans votre poste, dans votre radio, dans votre télé, sur le web bien sûr. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos chroniques évidemment en replay, en podcast. C'est bien sûr votre bibliothèque au que sais-je là de l'investisseur parfait. Et vous pouvez évidemment y accéder 24 heures sur 24. Alors aujourd'hui, intelligence artificielle, oui, et défense. Les deux dynamiques, les deux clés maîtresses qui animent le marché en ce moment et vos idées d'avenir pour vos investissements, vos finances personnelles. On s'est beaucoup posé de questions tout au long de la semaine sur l'opportunité ou pas d'investir dans SpaceX notamment. Pas possible d'être absent du terrain. Mais comment, hein, quelle solution d'investissement et quelle stratégie adopter? On va voir tout ça dans le détail avec nos déchiffreurs du jour, Marion Chapelle-Massot de Decarion et Laurent Grassin de Boursorama qui seront avec nous dans quelques secondes. Arbitrage de court terme aussi sur les marchés. On va reparler de la Fed hier soir, hein, avec ce premier grand oral de Kevin Warsh, le nouveau boss de l'institution. On y reviendra avec Andrea Twenny tout à l'heure. Andrea Twenny de Saxo Bank, les arbitrages de court terme. Aujourd'hui, on vous propose du rendement. Oui, du haut rendement même. Mais vous le savez, qui dit rendement élevé dit risque élevé. Toujours important de se réserver alors une poche pour ses actifs dans son spectre d'investissement. Mais bon, de quelle manière et quels objectifs sans se mettre en position délicate? On va brosser un petit peu le terrain tout à l'heure dans la boîte à outils avec Marie-Christine Sonquin des Échos qui sera avec nous. C'est jeudi, évidemment, c'est Small et Mid Cap, le journal des Small et Mid Cap avec Eric Lewin de Bourse Direct. On parlera notamment d'intelligence artificielle encore et toujours, mais avec Lighton, hein, une de nos pépites à ce sujet. Enfin, on terminera l'émission avec les 5 à main de luxe. Grosse vente à prévoir chez Christie's dans quelques jours avec en clou du spectacle. Alors, deux modèles uniques de chez Hermès. Des pièces absolument exceptionnelles. On vous dit tout en fin d'émission sur ce marché, parce que le marché des sacs à main de prestige et notamment des objets collector, ça peut atteindre des sommes folles. On le verra, ça va très très loin quand même. On sera avec les spécialistes de chez Christie's dans le coffre-fort. Toutes vos questions, vous pouvez nous les poser par email. L'adresse, c'est direct@bfmbusiness.fr. Vous pouvez nous envoyer un SMS au 732-16, clé business avec votre question ensuite. Et sinon, vous pouvez me joindre directement sur mes comptes. Le reste de l'actualité du jour. Alors, l'événement, c'est ce nouveau sommet européen à Bruxelles et les 27 qui vont largement consacrer leur discussion autour de la Chine, donc les exportations vers l'Europe qui explosent, et avec le déficit commercial qui s'aggrave. Alors, la Commission compte muscler un peu son jeu et tous les détails sont à retrouver sur notre site internet. Un gros dossier de la rédaction à l'appui. Cette fois, c'est bon pour l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. Les présidents des deux pays ont signé le protocole à distance hier soir. Donald Trump l'a fait directement au château de Versailles pendant son dîner avec Emmanuel Macron. Des images qui ont rassuré le marché. À la veille de la cérémonie et du début des nouvelles négociations entre délégations américaines et iraniennes en Suisse, le baril de Brent a encore perdu quelques dollars. On est bien installé sous les 80 maintenant, à 77,80 à l'instant. Et en tenant compte de l'accord de paix, l'INSEE a quand même revu à la baisse des prévisions pour cette année, mais moins que la Banque de France qui avait arrêté son scénario avant. L'Institut table donc sur 0,7% de croissance cette année, avec une inflation à 2,7 fin décembre. Et puis tiens, l'impact économique de la Coupe du Monde américaine sur l'économie mondiale. Chiffre intéressant, là, compilé par Virgile Cabanne de l'équipe de Tout pour investir, que je remercie. Chiffre en provenance d'Allianz Research, la compétition devrait dégager une valeur économique trois fois supérieure à la précédente édition, celle de 2022. Les recettes de billetterie, alors ça, on en a beaucoup parlé, sont multipliées par 5 également. Et tout se passe bien dans les villes hôtes des compétitions, malgré les doutes hein, à propos des tarifs de l'hébergement. Ça se passe plutôt bien. Taux d'occupation des hôtels, 95%. Des chiffres plutôt encourageants. Donc, tout de suite, le tableau de bord de vos marchés.
Tout pour investir. Le tableau de bord.
Bon, accord de paix signé, sell the news, hein, c'est ce qui se passe un petit peu sur les marchés. Enfin, pas trop, hein, on a un CAC 40 qui recule très légèrement, moins 0,14%, 8419 points, moins 0,07 pour la tech, l'Euronext Tech Leaders, qui surperforme légèrement le reste du marché. À noter que Wall Street a quand même beaucoup plus vendu la nouvelle hein, hier, avec notamment un Nasdaq qui a perdu 1,34% et moins 0,98% pour le Dow Jones. Bon, au milieu de tout ça, on a des marchés européens qui sont relativement calmes. Moins 0,13% pour l'Eurostock 50. Il faut dire qu'on sort aussi de la première décision de politique monétaire de la Fed sous présidence de Kevin Warsh, qui s'est montré quand même assez décidé hein, sur les futures actions de politique monétaire de la Fed. Ouais, si l'inflation continue de rester aussi collante, va peut-être falloir parler de hausse des taux. Et ça, c'est pris en compte hein, dans les marchés, et notamment sur le marché obligataire. Ça se voit avec des taux qui se tendent, alors légèrement, côté France 3,57, 2,93 côté allemand, 4,45 côté américain. On reste quand même relativement proche des 4,5, hein, cette sorte de niveau d'équilibre du moment. Un petit coup d'œil sur les titres qui bougent le plus à Paris. À noter Airbus qui signe la plus forte du jour à plus 2,33. On est à 191,38€. Le grand plus 2,34, 148,40€. Schneider Electric plus 1,95 à 288,25€. Nos spécialistes de l'intelligence électrique qui sont encore aux avant-postes comme hier avec une très très belle séance. Ben, ça continue aujourd'hui. Le luxe qui se porte pas mal. Kering plus 1,43% à 268,70€. Et Hermès plus 0,14, 1730€. À la baisse, on a Carrefour qui est l'objet d'une recommandation très négative de JP Morgan qui s'attend même possiblement à un avertissement sur résultat au vu d'une conjoncture de marché très très dégradée. Du coup, le titre Carrefour perd 6,3% à 15,41€. C'est encore dur pour l'automobile. Aujourd'hui, au lendemain des profit warnings de BMW, des inquiétudes notamment autour du directoire de Volkswagen qui parle de menaces structurelles hein, sur l'ensemble du secteur et particulièrement sur le groupe, Stellantis perd encore 2,3% à 5,65€. On en reparlera dans quelques secondes hein, avec nos déchiffreurs. Parmi les plus fortes baisses du SBF 120, donc Carrefour s'est fait, moins 6,7% pour Sartorius Stedim, qui est à 164,80€, puis à noter Worldline, encore une séance difficile, moins 5,58€, à 10,60€. Le pétrole, je vous le disais hein, dans les infos du jour, 77,80€ pour le Brent, qui s'est encore un petit peu tassé. Tout de suite, on déchiffre l'actu du jour.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Et nos déchiffreurs du jour, Laurent Grassin, Boursorama, bonjour Laurent.
Antoine.
Et Marion Chapelle-Massot de Carillon, bonjour, merci d'être là en direct ce matin pour déchiffrer l'actu du jour. On va peut-être juste commencer à parler de l'automobile là, il y a quelques secondes. Profit warning de BMW, avec des commentaires vraiment noirissimes en disant la conjoncture s'améliore mais vraiment pas du côté des États-Unis ni du côté de la Chine. Manque de bol, ces deux pays... BMW, ils vendent beaucoup, mais BMW, ils fabriquent beaucoup de voitures. Donc là, c'est beaucoup plus inquiétant. On le disait, il y a eu la presse anglo-saxonne hier matin qui disait qu'au sein du directoire de Volkswagen...
Danger existentiel. Hein.
Danger structurel et existentiel.
Là, on est présent,
oui. Ouais, c'est très, très chaud. Bon, on attendait le réveil de l'automobile. C'est pas encore pour maintenant. Il y a trop de défis, c'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Laurent ?
Ça fait écho à ce qu'on se disait il y a 2-3 semaines sur le plateau. On avait commenté les chiffres du redémarrage, ou en tout cas de la belle progression de l'électrique, facilitée à la fois par notamment l'augmentation du prix des carburants, le fait aussi que du côté des constructeurs français, cette fois-ci, on commençait à réussir à sortir des modèles accessibles, pas trop chers. Je pense que, et je vous avais dit, pour moi, on peut commencer à regarder ce secteur, mais ça va rester compliqué encore pendant longtemps. Et je pense même, et c'est là où c'est intéressant, que ça va être plus compliqué pour les constructeurs allemands, pour les constructeurs français, parce qu'ils ne savent pas trop faire de l'entrée de gamme, les constructeurs allemands, en fait. Oui. Et c'est ça aussi un des défis, hein. C'est-à-dire que là où finalement Renault a réussi à faire Dacia, on n'a pas trop réussi à répliquer ce modèle côté... Oui, mais ça vous fait sourire, Antoine, mais on n'a pas réussi à répliquer ce modèle côté allemand.
Et pourtant, c'était les premiers avec Skoda.
Exactement, mais Skoda se porte bien d'ailleurs.
Ouais, oui, en plus,
Skoda se porte bien, mais pas suffisamment pour tirer le navire amiral Volkswagen. Ouais. Et puis on voit aujourd'hui que quand même, ce chiffre qui est dingo, la marge opérationnelle attendue chez BMW cette année, entre 1 et 3%,
je me rappelle quand j'ai commencé à suivre l'automobile en bourse,
le c'était fameux double digit, hein, comme on dit.
Évidemment, c'était minimum 12% de marge.
Donc ça veut dire quoi? C'est exactement là aussi ce qu'on avait dit sur le luxe et sur l'automobile, c'est-à-dire que oui, la concurrence des véhicules chinois, que ce soit sur le marché domestique et sur le marché européen, est redoutable. Les constructeurs européens qui sont englués dans une transition qui n'en finit pas énergétique ont du mal. On voit bien que Volkswagen commence à reparler de plan social de fermeture d'usine, alors qu'il l'avait rejeté après en disant bon, on va faire quelque chose d'étalé depuis 2030. Donc voilà, l'automobile, c'est compliqué. Il y a encore des gros gadins depuis le début de l'année, y compris en France. Un Renault Stellantis, c'est pas génial. Le seul qui surnage un petit peu parce qu'on commence à lui mettre une espèce de prime IA dont on verra s'il est fondé, c'est Valeo.
Oui.
Qui a rebondi. Mais c'est
ça,
sûr.
C'était un peu.
Voilà. Ouais. Mais c'est sûr que pour l'investisseur, je pense que ça reste un secteur qui est durablement sinistre.
Alors Marion Chapelle-Masso, il y a peut-être, on ne va pas parler industrie et vraiment hard business, mais il y a un sujet qui concerne l'automobile, qui concerne les placements financiers. Et moi, j'en entends de plus en plus parler. D'ailleurs, on va parler des produits structurés là avec Marie-Christine Sonquin tout à l'heure dans la boîte à outils. Et c'est Karen-Laure Mrejeune que je remercie, qui nous avait mis le nez dessus. Quand on choisit des produits structurés, faut soulever le capot et faut savoir ce qu'il y a dedans. Souvent, on passe un petit peu en disant ouais, bon, voilà. C'est des mécanismes, c'est des actifs, et on sait en particulier qu'il y a certains produits structurés qui étaient exposés au titre Stellantis, des produits structurés qui ont vocation à être diversifiés en eux-mêmes et qui là étaient monoproduits. Ça paraît un peu bizarre comme concept. Et du coup, y a beaucoup d'investisseurs qui se disent oui, bon, ça baisse beaucoup quand même le truc. Comment on gère ça au quotidien, le fait que parfois, il y a peut-être des erreurs d'aiguillage quand même?
Alors d'abord, dans la catégorie des produits structurés, il y a deux grandes familles.
Il y a plein de choses.
Même plusieurs familles, mais en tout cas, on peut trouver les produits indiciels, qui sont ou sur des paniers d'actions, donc ils sont par nature plus diversifiés, puisque composés d'indices et donc de multiples sous-jacents, ou de paniers de valeurs qui sont donc qui permettent de diversifier. Et puis ensuite, de l'autre côté, on a les single titres, donc un titre, donc un produit structuré sur, par exemple, l'action ou le titre Stellantis, pour ne pas le citer. Et donc là, encore sur ce produit structuré qui encore une fois hein, en fin d'année 2024 présentait tout au vert. Hein. On avait dans nos due diligence beaucoup d'acteurs banquiers, conseils en gestion de patrimoine, gestion de fortune ont été séduits par ce point d'entrée de la fin de l'année 2024.
C'est ça, ouais.
Une action Stellantis qui devait tourner aux alentours de 11 euros. Qui était donc vraiment historiquement basse. Bon, derrière, s'en est suivie une des plus grosses baisses historiques du CAC 40, il faut quand même le reconnaître. Mmh. Et donc, forcément des déceptions. Mmh. Et au-delà de ça, on a certains produits qui ont des décrémentes. Et ça, c'est plus compliqué pour l'investisseur
spécial, ouais.
de comprendre la notion de décrémente. C'est un indice, en fait, qui est synthétisé.
Ouais.
C'est pas l'action pure. Mmh. Et donc, on regarde aujourd'hui, Antoine, vous en parliez tout à l'heure des résultats là, légèrement la hausse aujourd'hui de Stellantis, il me semble.
Oui, oui.
Bon, donc là, oui, mais sauf qu'avec le décrément, on vit pas les hausses comme elles sont
exactement.
En réalité.
Exactement.
Je sais pas si
il y a trop de gens
clair.
Qui le comprennent pas.
Nos clients, nos investisseurs, nos épargnants, en tout cas et les auditeurs qui nous écoutent, doivent bien comprendre que la notion de décrément en produit structuré peut avoir des impacts, et notamment quand il y a des baisses, qui tirent encore plus vers les seuils de garantie, en dessous des seuils, et qui peuvent même, à terme, arrêter le produit en cours de route.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a des, voilà. il y a des effets cliqués, il y a des clauses.
Si le sous-jacent baisse à zéro, le produit s'arrête, même s'il avait une garantie en capital jusqu'en 2033.
Ouais, voilà. Bien sûr.
Donc, voilà, les produits structurés, il faut quand même comprendre ou se faire conseiller. C'est mieux.
Toujours se faire conseiller, parce qu'on ne va pas l'inventer. Hein. Il y a un moteur, il y a une mécanique, et puis il faut tout comprendre, les stop-loss, etc. C'est quand même très compliqué, alors que pendant des années, je me souviens, les détaillants, et notamment les banquiers, disaient, ouais, vous allez voir, ça se gère tout seul, c'est quasiment à l'ETF.
Vous êtes un peu dur, parce que l'AMF a fait une étude sur le sujet, et dans la grande majorité, les produits structurés se conformes à peu près comme ils ont été designés. Donc voilà.
Fait.
Non, non, mais
tout à fait.
C'est hyper intéressant. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est hyper intéressant d'avoir ces pressions parce que notamment sur la notion que Marion a amené sur le décrément, ça, c'est vrai que c'est quelque chose. C'est un peu les petites lignes.
Ouais.
On ne sait pas toujours. Ouais. Mais pour le reste, grosso modo, quand on est sur des indices larges, les scénarios sont plutôt clairs et ça fonctionne à peu près comme prévu. Voilà, je vais les défendre aujourd'hui.
Ouais. Mais déjà à la base, quand on vous promet un produit structuré, donc qui est quelque chose de composite et que vous rendez compte que c'est exposé principalement à un titre.
Oui, alors là,
déjà, il y a un souci. Sujet qui vous intéresse tous les deux et qui nous intéresse tous, la défense. Il y a un truc très
contre-intuitif.
Paradoxal qui s'est passé. Ouais. C'est-à-dire qu'on a vu Eurosatory, on s'est félicité de nos spécialistes de la défense qui ont des marchés comme ça, qui ont des technos au top, etc. Et puis, principalement, on a quand même un forum Eurosatory qui s'est ouvert sur le SCAF, terminé. Bon, on le savait. Hein.
Ouais, il était déjà. Mais le MGCS.
Mais depuis le Rafale, ouais. Depuis le Rafale et l'Eurofighter, oui. On sait que
c'est
Dassault en consortium.
C'est la même histoire.
Ça ne marchera jamais.
Non, non.
Bon, voilà. C'est un peu dur à encaisser parce que. Parallèlement, en plus, on a des doutes maintenant sur l'intégration du projet de char franco-allemand.
GCS, oui.
On a ce paradoxe d'une défense française, d'une industrie de défense qui est en train de changer de dimension, qui est top, qui n'arrive pas à intégrer une optique commune européenne. Et parallèlement, des autorités européennes dont on attend toujours un nouveau coup de boost.
Il y a eu un prêt de 15 milliards là, qui a été accordé. Comme
voilà, alors ça, ça a été, voilà, ça a été le gros événement.
Ça
mais
a été validé officiellement.
Ce qu'on attendait, c'était les gros flux d'investissement, les grosses annonces et tout. Et ça, on attend encore un petit peu.
Et ça correspond très bien à ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous regardez l'indice de référence qui est l'Europe Total Market Aerospace and Defense, le Stoxx, qui comprend également le Royaume-Uni, on se rend compte qu'effectivement, on a une accélération. Alors, il est en légère baisse depuis le début de l'année, c'est pas très grave, mais on voit que sur les trois derniers mois, on a des poids lourds qui décrochent, que ce soit Rheinmetall, que ce soit BAE Systems, que ce soit Leonardo. Et c'est vrai que pour beaucoup d'investisseurs individuels, c'est hyper contre-intuitif dans un contexte, on en parlait avec Marion avant de rentrer, où la géopolitique est quand même particulièrement adverse.
Ouais.
Plusieurs points. Un, on l'a déjà dit à de nombreuses reprises, si vous regardez le cours, je vous ai retrouvé quand même, de Rheinmetall, quand j'intègre cette correction, c'est encore plus 1250% sur les 5 dernières années.
Ouais,
Rolls-Royce, plus 1155%. Donc ça avait beaucoup monté.
Rolls-Royce, les moteurs.
Les moteurs.
Rolls-Royce, les moteurs. Arrêtez avec les limousines. C'est BMW.
Et paradoxalement, c'est vrai que ce que vous dites, Antoine, est très vrai. Et moi, c'est un peu ce qui m'inquiète. C'est-à-dire que je suis persuadé que la thématique reste porteuse sur le long terme. Je suis persuadé que bon an, mal an, malgré les problèmes budgétaires qu'on peut avoir en Europe, ça va être une thématique qui s'impose. Ce qui m'inquiète plus, c'est effectivement ces tentations du repli national. Et ça, c'est vrai que ces gros projets où on est censé s'entendre, où on est censé collaborer, ça ne fonctionne pas. Et ça fonctionne, j'ai le sentiment, encore moins bien qu'il y a quelques années. Ce qu'on voit quand même, c'est que ça shift quand même. On voit que l'Italie a acheté des MRTT plutôt que des Boeing pour ses ravitailleurs. Mmh. On voit que la France achète des GlobalEye. L'OTAN s'intéresserait. Alors, on l'a annoncé un peu vite qu'ils allaient changer tous les AWACS contre des GlobalEye de Saab. On n'y est pas encore, mais il y a cet intérêt. On voit que sur le système de lance-roquette unique, on va partir sur une solution française. Donc, ça commence à shifter, mais ça prend du temps. Et gare à la tentation du repli national.
C'est vrai que c'est quelque chose qui est très crispant et très frustrant parce qu'on a vraiment un boulevard là pour le coup, mais c'est vrai que là il y a beaucoup de politique. Cela dit, Marion Chapelle-Massot, investir dans la défense et justement intéresser de plus en plus les particuliers au private equity via les fonds BPI et autres qui sont dessus. Est-ce que finalement c'est pas un aiguillon aux autorités européennes pour dire entendez-vous un bon coup parce qu'il y a de l'argent, du vrai argent derrière qui commence à arriver et en provenance peut-être du retail et des clients privés?
Oui, bien sûr. On a beaucoup de questions en ce moment.
Oui.
Mais on revient aux fondamentaux parce que c'est vrai que les investisseurs entendent parler évidemment de certaines valorisations, de certains investissements, des plans de réarmement européens, de manière un peu globale. Mais au final, qu'est-ce qu'il advient pour leurs finances? Dans quoi ils investissent? Parce que c'est ça le sujet. C'est vraiment de revenir. Et aujourd'hui, ils disent, mais attendez, vous me faites investir vous me préconisez un produit structuré orienté défense, une ligne défense, et pour autant, depuis le début de l'année, je perds de l'argent. Donc, il y a un côté déceptif, alors même qu'on est nous étions en plein conflit au Moyen-Orient, où on est encore embourbé en Ukraine, etc. Donc, il y a des besoins et on ressent bien cela. Mais je crois qu'il va falloir quand même un peu du temps pour le gouvernement convaincre, au vu de toute façon du, entre guillemets, excusez-moi, mais flop du fonds BPI, parce que je rappelle que la cible de ce fonds, c'était 450 millions, ils en ont collecté 100. Bon,
oui.
C'est
du private equity, c'est un produit spécifique aussi. Hein.
Absolument. Ouais. Mais les Français sont prêts à peut-être avoir un élan de souveraineté en investissant sur ces fonds-là.
J'allais vous dire.
Mais il faut qu'il y ait un rendement en face. Parce qu'aujourd'hui, Nos clients posent la question, ils ont du mal à comprendre pourquoi on est dans une phase où on parle d'armement, il y a un besoin, etc. Mmh. Et à côté de ça, les valorisations baissent.
C'est
la
ça.
Notion de prise de profit, etc., c'est pour nous un exercice de pédagogie extrême. Hein.
Totalement. Et est-ce qu'il ne faudrait pas recadrer ça, en fait, dans une optique plus globale, souveraineté européenne qui va avec l'infrastructure, la recherche, les programmes communs de santé, etc. Et intégrer tout ça dans une optique peut-être un petit peu plus globale qui unifierait les décideurs, mais aussi qui rendrait le truc plus attrayant pour l'investisseur.
Oui, oui, c'est sûr qu'il faudrait peut-être le maquiller un peu, enfin faire un peu de cosmétique sur ce fond-là pour le rendre un peu plus sexy. Mais la classe d'actifs reste une thématique, qu'on se le dise.
Totalement.
Et donc elle rentre dans un schéma d'allocation global. Et un autre point. Parce que certains ont tendance à confondre, à se dire, ah oui, mais la défense, l'armement, c'est une valeur refuge. Non, ce n'est pas une valeur refuge. C'est volatile.
C'est
et c'est soumis,
Les forces ne sont pas défensives.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est puis il y a une corrélation avec les budgets publics.
Oui, totalement.
Parce que si d'un seul coup, ça s'arrête, bon.
C'est public, c'est politique.
Voilà.
Peut-être, Laurent Grassin, le mot.
Pardon, on n'avait pas fini.
Non, non.
Peut-être, une façon aussi d'investir, parce que ça, c'est vrai qu'on peut parler volonté européenne, etc. Et puis ça prend du temps. Et puis peut-être une façon d'investir, c'est peut-être se méfier un peu des ETF pour le coup. Pourquoi ? Parce que justement, beaucoup d'ETF répliquent cet indice dont je vous ai parlé, au sein duquel on voit que les poids lourds ont plutôt tendance à souffrir. On voit que c'est quand Rheinmetall perd 25%, l'ETF peut pas bien performer. J'ai l'impression quand même. Et que c'est un secteur dans lequel il faut bosser. Et donc, il va falloir rentrer un peu dans le dur de que font les sociétés, pourquoi, comment. Ben, peut-être aussi que c'est un secteur dans lequel on peut donner sa chance. Vous savez, j'y reviens à chaque fois, mais c'est normal, aux sociétés moyennes, parce que ces grands projets qui prennent du temps, qui sont longs, qui nécessitent des budgets, etc., on n'y arrive pas. Tandis que finalement, on a besoin de drones pour surveiller ce qui se passe dans la mer du Nord. Paf,
Excel, boom, Exosens, boom.
Voilà, on voit OHB qui est rentré, la société allemande spatiale et défense. Donc, il y a quand même pas mal de petites boîtes en Europe. Marion a très bien dit, c'est les valeurs défense ne sont pas défensives.
Pas défensives.
Donc attention,
elles sont cycliques, elles
attention
sont
au business
elles sont...
et donc je pense que c'est un secteur dans lequel on peut pas être feignant, on peut pas prendre comme on prend un ETF IA, on peut pas prendre c'est plus compliqué à mon sens de prendre un ETF défense Europe et d'attendre que ou alors on se dit c'est une thématique effectivement sur les 5-10 prochaines années, moi j'en prends pour 10 ans et je me casse pas la nette, pardon.
La granularité, encore une fois, on y est. Marion Chapelle-Massot de Carillon, merci infiniment d'avoir été avec nous et Laurent Grassin de Boursorama. À très bientôt pour un nouveau déchiffrage et tout de suite les arbitrages.
Tout pour investir, arbitrage.
André Atueni, Saxo Bank, bonjour. Un CAC 40 qui est quasi inchangé, un plus 0,07%. On est à 8436 points. Bon, c'est signé entre l'Iran et les États-Unis. Enfin bon, le mémorandum qui est prélude à de nouvelles négociations. D'accord, on a quand même pas mal de bonnes nouvelles. On a eu le premier grand oral de Kevin Warsh. Ça, on en reparlera dans quelques secondes. Mais au milieu de tout ça, des marchés un petit peu indécis. On a vu que Wall Street avait vendu toutes les nouvelles hier soir en clôture. Et du côté de l'Europe, bon... Ça tient, globalement ça tient, on va dire.
Oui, c'est vrai que ça tient. On a eu quand même une reprise à la hausse après cet accord entre les États-Unis et l'Iran qui a quand même soulagé les marchés. On avait malgré tout une prime de risque géopolitique sur ce marché qui est en train de s'évaporer petit à petit, même si on le verra, mais tout n'est pas encore fini. Et on peut se poser la question de savoir à quel niveau justement vont se fixer les cours du pétrole après justement cet accord qui a été signé d'ailleurs hier par Donald Trump. Donc on a quand même ce soulagement qui s'inscrit sur le marché. D'ailleurs, on a longtemps hésité, on est revenu tester pendant plusieurs semaines cette résistance, un coup on était au-dessus, un coup on était en dessous à 8259 points sur le CAC. Là, on s'éloigne quand même de cette résistance. Maintenant, on a un gap qui était ouvert entre fin février et début mars à 8530 à peu près. Ce gap-là, on a essayé de le combler, on l'a pas encore tout à fait comblé, donc ça apparaît comme un premier niveau de résistance, un premier objectif court terme pour le CAC, d'essayer de rallier ce niveau des 8530 points. Et on a du coup des niveaux de support court terme qui sont assez bien établis, 8350, 8300, et puis bien sûr ce niveau pivot maintenant à 8259, ancienne résistance qui devient aujourd'hui maintenant un support et peut-être même une zone pivot. En dessous, on aura un biais un peu plus baissier évidemment, alors qu'au-dessus, on aurait toujours cette capacité essayer d'aller tirer un peu l'indice plus haut. Mais je pense qu'il y a vraiment deux forces en présence et ça se matérialise assez bien aujourd'hui sur pas mal d'assets. Il y a d'un côté la géopolitique avec cette bonne nouvelle, et puis de l'autre côté, il y a toujours ces petites inquiétudes macroéconomiques qui sont assez court terme, avec du coup ces craintes sur l'inflation, notamment avec la politique des banques centrales. Et c'est vrai que ça crée une instabilité, on va dire, sur le marché. Ça crée une incertitude encore un petit peu présente. Et c'est vrai qu'on le voit notamment si on se pose la question sur les cours du pétrole. On a vu une baisse assez nette des cours. Si on prend le Brent, on a baissé assez nettement. On est sous les $80 le baril maintenant sur le Brent. Mais on peut se poser la question de savoir si on peut rallier les niveaux d'avant-guerre. Les niveaux d'avant-guerre, ils sont sur un range, on va dire, entre 60 et $70. Et ça, pour le coup, c'est beaucoup moins évident aujourd'hui parce qu'il y a quand même des forces en présence qui nous amènent à penser qu'on risque de s'établir sur un range un peu au-dessus. Et ce range un peu au-dessus, il pourrait peut-être se situer entre 70 et $80 plutôt qu'une baisse jusqu'au range 60-70. Et les raisons, c'est qu'on a des stocks, du coup, qui sont bas, notamment les réserves stratégiques qui vont être à reconstituer. Et donc ça, du coup, ça va maintenir une demande assez élevé et donc tirer potentiellement les prix à la hausse. On a aussi une reprise de la demande de manière générale. Le T3, le troisième trimestre, c'est un trimestre généralement où la demande est relativement importante avec du tourisme, du transport, etc. Et on a toujours cette prime de risque géopolitique parce que malgré tout, la région reste problématique, reste tendue. Même si on a cet accord aujourd'hui, il y aura d'autres étapes qui seront à franchir. Il y a d'autres sujets qui sont à éclaircir, notamment les questions du nucléaire, etc. Et on a 60 jours justement pour se mettre d'accord entre les États-Unis et l'Iran. Donc il peut encore se passer des choses. Donc les marchés, il y a de fortes chances que les marchés maintiennent quand même une faible prime de risque encore sur cette zone, et donc du coup on pourrait s'établir un cran au-dessus sur le pétrole. Donc on a toujours un potentiel de baisse sur le Brent, mais peut-être que ce potentiel de baisse, pour ceux qui visent potentiellement un retour sur le range 60-70, c'est peut-être un peu trop ambitieux. Donc voilà à peu près ce qu'on a aujourd'hui, et c'est un peu ces deux forces en présence qui s'opposent, y compris sur les indices.
Andrea, il nous reste une minute, je suis désolé. L'euro a cassé à la baisse 1,15. Sans doute les effets des propos de Kevin Warsh, son premier grand oral en tant que patron de la Fed, avec un discours qui était un petit peu plus faucon, on va dire, en matière de tendance sur les taux que ce qui était prévu à l'origine.
Ouais, un discours qui était complètement plus faucon de la part de Kevin Warsh. On a d'ailleurs un pricing du marché qui est maintenant assez net. On price 100 à 100% une hausse de taux de la Fed au mois d'octobre. Elle pourrait intervenir même un peu plus tôt. Il y a une probabilité pour le mois de septembre. Et si on regarde les probabilités jusqu'à la fin de l'année, on pourrait peut-être avoir, il y a une petite probabilité d'avoir même un peu plus qu'une hausse de taux. Donc ça, c'est vrai, ça vient un petit peu changer, évidemment, le pricing que le marché faisait avant cette réunion. C'est aussi une réunion qui perturbe un petit peu parce que Kevin Warsh a supprimé toute cette notion de forward guidance. Donc, les projections qu'il peut faire sur les taux, on les a plus vraiment comme on les avait avant sur les réunions de la Fed. Et donc, du coup, ça peut rajouter de la volatilité aussi sur les prochaines réunions. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, oui, on a cassé des niveaux sur cette paire euro-dollar. On peut aller viser maintenant une zone autour des 1,14, 1,14, 1,14, 10. Ça peut être justement un premier objectif. Et pour un peu invalider ce scénario baissier sur cette paire euro-dollar, il faudrait à minima repasser au-dessus des 1,15, 75. Ça, c'est premier niveau de résistance. Et puis après, on en a un deuxième vers 1,16, 90.
Merci Andrea Twini, Saxo Bank, merci d'avoir été avec nous pour arbitrer un petit peu ces tendances de marché qui sont assez nettes ce matin. Bon, le CAC inchangé, plus 0,1% maintenant, et un euro dollar qui est bien passé sous 1,15, 1,14,79. Restez avec nous, Tout pour investir, deuxième partie dans quelques secondes, et on va la commencer par les produits à haut rendement dont va nous parler Marie-Christine Sonquin des Échos. À tout de suite.
Tout pour investir, la boîte à outils.
La boîte à outils, on est toujours à votre écoute, vos désirs, vous voulez du rendement. Oui, c'est pas le tout d'avoir du dynamisme dans la prise de valeur des actifs, vous voulez aussi du rendement, le fait que tranquillement, ça dégage du rendement, du taux, vraiment avec une préférence ces temps-ci pour les rendements bien tassés, bien hauts. Les produits à haut rendement ont beaucoup de succès. Ça se voit au travers du succès des produits structurés, au travers du private equity, mais à chaque fois, du rendement en plus, c'est aussi du risque en plus. Et on va en parler avec Marie-Christine Sonquin des Échos. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, on va commencer par les produits structurés justement. On en a parlé dans le déchiffrage. Comment ça se fait, on va revenir aux fondamentaux, comment ça se fait que les produits structurés arrivent à dégager du rendement vraiment régulier, mais tasser, encore une fois, dans une période où les marchés, eux, sont un petit peu plus volatiles.
Alors, il faut voir comment sont structurés, justement, ces produits. Vous avez une partie taux, là, c'est pour sécuriser vos actifs. Et puis, vous avez une partie qui va être investie sur des actions, sur des indices, et ça, via des options. Mmh. Et plus les marchés sont volatiles, plus les options prennent de la valeur. Donc, vous dites, ben, c'est formidable, c'est la martingale, les produits structurés. Vous avez à la fois la partie sécurité et puis la partie où vous êtes exposé de façon accentuée justement à la volatilité de ces marchés, ce qui permet de dégager des performances. Alors après, ça va dépendre du produit que vous allez choisir.
Toujours.
Vous allez avoir certains produits qui vont être à capital garanti, qui vont vous dégager, vous faire une promesse de rendement entre 4 et 6%. Et puis, vous aurez des produits où vous aurez simplement une partie qui sera protégée, où vous serez protégé seulement jusqu'à un certain niveau de baisse de l'indice. Ça peut être 30%, ça peut être 40%, ça peut être 50%. Et là, vous pouvez accéder à des rendements bien supérieurs, 8, voire 10%. Donc, c'est ce qui intéresse bien évidemment énormément les épargnants qui sont à la recherche de rendements élevés face à un livret A qui est devenu poussif et puis une assurance vie en euros qui procure entre 2-3% par an. Mmh. Donc, ce qui paraît pas forcément suffisant face à une inflation qui s'est quand même un petit peu réveillée, il faut le souligner.
Alors, au milieu de ça, oui, les rendements élevés, c'est attractif, mais rendements élevés, encore une fois, c'est risque plus élevé. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter compte tenu de son profil financier, finalement ?
Alors, les produits structurés, c'est vrai que c'est surtout intéressant, en fait, pour l'émetteur. Alors, je ne dis pas du tout qu'il ne faille pas souscrire de produits structurés, mais il y a quand même pas mal de pièges dans ces produits structurés. Le premier, c'est celui des frais. Il y a des frais qui sont relativement importants. Alors, ça veut dire aussi que ces frais, ça correspond à un travail, parce qu'il faut justement concevoir, structurer ces produits, payer les ingénieurs qui vont les construire. Donc, c'est logique qu'il y ait des frais. Mais alors, le problème, c'est que ces frais, ça s'additionne aussi souvent à l'enveloppe dans laquelle vous allez placer votre produit, en général l'assurance vie. Donc, vous allez avoir les frais du produit, plus les frais de l'assurance vie, ça finit par faire une masse de frais, d'autant que les frais de ces produits structurés, eh bien, ils sont prélevés pour une certaine, ils sont calculés pour une certaine durée de produit, et quand le produit est plus court, quand vous avez des produits autocall avec un rappel de produit beaucoup plus tôt que ce qui est prévu à l'origine pour toute la durée du produit, eh bien, on va vous prélever la totalité des frais qui ont été prévus jusqu'à l'échéance, et ça peut réduire très considérablement la rentabilité de votre produit, donc ça peut être un petit peu déceptif. Après, il y a d'autres pièges sur les produits structurés, parce que les épargnants ne comprennent pas toujours très bien comment cela est conçu. Déjà, il faut bien comprendre quel est le sous-jacent du produit structuré, de quoi va dépendre sa performance. Alors, vous avez des produits structurés qui sont très simples, par exemple, sur une action. Et vous dites, bon, vraiment, l'action, elle est quand même très, très bien orientée, mais... Oui. Il peut y avoir de gros accidents de parcours.
Et un de ces quatre, c'est Stellantis, l'action.
Et là, vous aurez mis tous vos œufs dans le même panier.
Et voilà.
Et évidemment, ça va être très, très déceptif.
Ce qui est contre-intuitif, finalement, parce que quand on dit produit structuré, on imagine quelque chose de composite et qui a plusieurs dynamiques et plusieurs orientations. Et là, on se rend compte que... Une action, quoi.
Oui, ce qu'il y a, c'est que vous êtes protégé jusqu'à un certain niveau de baisse de l'action, mais quand ça enfonce les planchers, vous n'êtes plus protégé du tout.
Plus rien.
Donc, donc là, vous dites, j'aurais mieux fait de miser sur un panier d'actions. Donc à ce moment-là, vous dites, là, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier, mais il faut voir comment est conçu ce panier d'actions. Parce qu'on peut, par exemple, vous proposer un panier d'actions, mais les performances du produit structuré vont se fonder sur les moins bonnes performances de ce qui va composer ce panier d'actions. Donc là, c'est encore pire. Finalement. Donc vous avez plus de chances de voir baisser. Ça ne sera pas forcément la moyenne. Donc il faut faire très attention à ce sur quoi vous êtes investi. Vous avez aussi beaucoup de produits structurés qui sont investis sur des indices. Et certains d'entre eux sont investis sur des indices synthétiques. Donc il faut comprendre comment ces indices synthétiques sont organisés, comment ils sont calculés. Donc vous avez des indices qui sont total return, c'est-à-dire sur lesquels on compte à la fois la valorisation de l'indice dividende réinvesti. Et par rapport à cet indice total return, vous avez des indices à décrément, ce qui veut dire qu'on va calculer des dividendes fixes qui vont être prélevés sur cet indice. C'est comme ça, qu'on va calculer votre indice synthétique. Et ça va donc diminuer la valeur de cet indice. Et vous avez différentes formules pour calculer ce décrément. Vous avez des décréments qui vont être calculés en pourcentage et des décréments qui vont être calculés en valeur fixe. Et les décréments en valeur fixe, c'est particulièrement dangereux parce que imaginez que l'indice descende. Quand vous avez ce décrément qui est représentatif du dividende qui va être soustrait de cet indice, eh bien plus l'indice va être faible, plus le décrément en proportion va être énorme.
C'est ça.
Donc ça va être double peine. Donc il faut vraiment extrêmement bien comprendre comment est construit votre produit structuré. Alors les produits structurés, c'est très bien, c'est une très bonne solution de diversification de patrimoine. Je pense qu'il faut s'intéresser à cette classe d'actifs, notamment en ce moment, ça peut être vraiment intéressant, mais vraiment très bien comprendre ce à quoi on s'expose, quel est l'indice de référence et quels sont les frais.
On vous le redit, hein, parce que 95% de celui qui va vous proposer le produit structuré, que ce soit un banquier, conseiller financier, il va vous montrer les rendements, 95%. Les 5% qui restent, c'est des petites clauses. Et alors là, il faut vraiment vous faire détailler ça par un professionnel pour que vous compreniez tout, les tenants, les aboutissants. Bon, il ne nous reste vraiment pas beaucoup de temps, Marie-Christine. Peut-être juste parler du private equity, parce que là aussi, les questions de rendement. Là, pour le coup, ce qu'on va payer, ce n'est pas vraiment le risque, enfin si, un petit peu, mais c'est surtout les conditions de liquidité.
Alors, c'est vrai que le private equity, c'est une classe d'actifs formidable parce que, en plus, vous financez l'économie réelle.
Oui.
Vraiment, vous participez au financement d'entreprises, notamment d'entreprises qui se lancent. Et il s'avère que, sur le long terme, c'est une classe d'actifs qui est extrêmement rentable, plus rentable que le CAC 40. Donc, finalement, pourquoi est-ce que les particuliers ne pourraient pas profiter de cette classe d'actifs formidable ? Alors, depuis quelques années, ça s'est très largement démocratisé, notamment aussi via l'assurance-vie et aussi via le PER. Parfois, vous avez du private equity dans votre PER sans le savoir parce que vous avez souscrit un PER équilibré ou dynamique et que vous êtes en gestion pilotée, donc on va vous mettre automatiquement une page de private equity. Alors, dans le PER, ça ne pose pas trop de problèmes de liquidité parce que le PER, en général, c'est sur le très long terme, quoi, que vous pouvez...
Toujours.
Vous pouvez sortir dans certaines circonstances, notamment l'achat de votre résidence principale. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, le private equity, c'est une classe d'actifs formidable, mais qui est quand même moins rentable que par le passé, qui a moins le vent en poupe. Les conditions de crédit ne sont plus aussi faciles. Et surtout, en ce moment, il y a pas mal de problèmes de liquidité. Alors, justement, c'est tout le problème quand on met du private equity, par exemple, dans une assurance vie, qui est une enveloppe qui est censée être liquide. Donc ça, il faut bien que les épargnants en aient conscience. Alors, vous avez certains assureurs qui, justement, préviennent en amont. Comment est-ce qu'ils préviennent l'épargnant ? Ils vont vous dire, vous allez investir dans cette poche de private equity, mais par exemple, vous n'allez pas pouvoir sortir avant 4 ans. Ben, moi, je trouve que c'est pas mal, parce que comme ça, on comprend tout de suite ce à quoi on s'expose. Le private equity, ce n'est pas une classe d'actifs liquides. Ou alors, ils vont vous mettre des frais de sortie extrêmement élevés avant une certaine échéance. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le private equity démocratisé pour les particuliers, c'est du private equity qui est evergreen. Ça veut dire qu'on peut rentrer en permanence et qu'il y a une poche qui va être réservée justement aux problèmes de liquidité, qui va être réservée à ceux qui veulent sortir et qui ne veulent pas rester investis dans le private equity. Alors le problème, c'est qu'en général, quand ça commence à sentir un peu le roussi, tout le monde veut sortir en même temps et que cette poche ne va pas être suffisante, ne va pas être suffisante pour pouvoir rembourser tous ceux qui voudront sortir. Donc on risque de se voir confronté quand même à certains problèmes. Et en plus, ce qu'il faut quand même ajouter, c'est que cette poche de liquidité, elle ne va pas vous rapporter beaucoup.
Donc,
plus vous avez une poche de liquidité importante, plus ça va faire baisser le rendement de votre fonds Evergreen. Donc, on ne peut pas avoir à la fois la liquidité et un potentiel de rendement très élevé. On ne peut pas avoir les deux en même temps.
Vaste question, parce que c'est un peu aussi ce qui se passe en bourse. On demande aux actions de délivrer du rendement et de se comporter un petit peu comme du private equity. Enfin bref, on mélange un peu tout. Mais merci d'avoir démêlé un petit peu les chevaux. Marie-Christine Sonquin, des Échos, et à une prochaine boîte à outils, toujours très utile pour comprendre les tenants, les aboutissants de votre patrimoine. Tout de suite, le journal des Small et Mid Cap.
Tout pour investir, le placement à suivre.
Éric Lewin de Bourse Direct, bonjour Éric.
Bonjour, bonjour.
Alors, un petit coup d'œil sur nos small et mid-cap que vous regardez toujours de très près et qui vous intéressent hein, au cœur de vos problématiques patrimoniales. Déjà, un petit point sur les indices. On a vu que ça avait un peu sous-performé sur la semaine d'avant. Là, comment ça se passe? Ça se passe peut-être un petit peu mieux, j'ai l'impression.
Ben non, le CAC 40 fait +3 sur la semaine. Les autres indices sont stables. En fait, depuis le début de l'année, les trois indices sont entre 2 et 4 % de hausse. Mais je vais insister ce matin, mon cher Antoine, c'était pas prévu sur la débâcle de deux CRSI qui perdent 38% à 27,60 €, 624 millions d'euros. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un espèce de fonds activiste, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, Grizzly Research, qui est vendeur sur le titre et qui explique que la société est dans une fraude. Alors ils estiment en effet que le groupe a créé une structure frauduleuse aux États-Unis et que le chiffre d'affaires réalisé aux États-Unis sont faux, c'est-à-dire que les investisseurs, les régulateurs, les auditeurs ont été délibérément trompés. Alors c'est énorme, pourquoi? Parce que deux CRSI, c'était la grande vedette depuis quelques semaines, on n'a pas arrêté d'en parler, avec notamment les serveurs liés à l'intelligence artificielle. Bien évidemment, on n'en sait pas plus pour le moment, bien évidemment, il y a encore des enquêtes, mais Grizzly Research est clair, ils disent deux CRSI est presque entièrement une fraude. Bien évidemment, on suivra ça de très très près, mais c'est dommage si c'était exact, parce que c'était l'un des rares groupes à surfer sur l'intelligence artificielle. Mais attendons d'en savoir un peu plus. Je ne vais pas me prononcer, mais il faut vraiment, bien sûr, rester à l'écart du titre pour le moment et ne pas penser que parce qu'il a perdu 38%, il va rebondir tout de suite en ligne droite. Ça fait quand même très, très, très mauvais effet sur la place parisienne.
Oui, effectivement. Puis j'allais dire, Eric, c'est aussi un problème qui peut, d'un seul coup, frapper n'importe quel grosse capitalisation liée à l'intelligence artificielle, parce que chacune, et moi je me souviens qu'on en a parlé à propos d'NVIDIA, à propos d'OpenAI, etc., ont des structures de financement plus ou moins opaques, avec des structures qui constituent vraiment des précédents juridiques qui va être difficile à... Donc on peut éventuellement prévoir que des fonds activistes ou des cabinets de recherche comme Grizzly puissent s'attaquer à des plus gros poissons.
Alors les plus gros poissons aux États-Unis, les Nvidia, Micron, etc., il y a tellement d'auditeurs que je crois pas du tout qu'il puisse y avoir une faillite à la Enron. Par contre, sur les petites sociétés, c'est vrai que c'est étonnant, parce que regardez, que dit Grizzly? Ils disent que deux CRSI en 2023 avaient vendu une filiale qui s'appelle Boston Limited, qui générait plus de 83% de son chiffre d'affaires. Et c'est après cette cession que les revenus de sa filiale américaine ont explosé, alors que la région ne générait historiquement que 3% des ventes totales. Et c'est vrai que quand on est dans le monde des petites capitalisations avec des chiffres d'affaires qui explose, on peut légitimement s'interroger. Je vous rappelle que le 26 mars dernier, le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 204 millions d'euros, soit une hausse impressionnante, c'était sur le premier semestre, de 880%. Mais attendons d'en savoir plus quand même. Mais on se rappelle en mémoire, vous savez, il y avait une société il y a une quinzaine d'années qui s'appelait GoEx, qui promettait de mettre du Wi-Fi un petit peu partout. Et bien en fait, c'était une espèce de carambouille, une ponzi. Et la société avait fini en liquidation judiciaire, et bien sûr tous les boursiers ont en mémoire. Alors attendez, je ne veux pas faire un parallélisme, je ne veux pas qu'on soit accusé sur BFM Business de raconter n'importe quoi.
Non.
Attendons d'en savoir un peu plus, mais c'est vrai que ça fait très très mauvais effet. En tout cas, les investisseurs commencent à paniquer, puisque à l'heure où je vous parle, l'action perd 38,1% avec 318 000 titres, ça fait 1,4% du capital.
Bon, on va parler d'une aventure peut-être un petit peu plus positive, puis alors là, pour de bonnes raisons, c'est Lighton. Ça, on l'attendait, c'est un des... plus récent introduit en bourse du côté d'Euronext, et on en attendait beaucoup, notamment grâce aux perspectives de l'IA, et le résultat est spectaculaire là pour le coup.
Alors oui, alors sur la semaine, ça fait +56%. Pourquoi? Parce que leur infrastructure d'IA souveraine est déployée en production au sein d'une quinzaine d'institutions publiques françaises, ministères, régions, collectivités locales. Le problématique, c'est qu'on n'a pas plus de chiffres. Sur un dossier Lighton qui promettait beaucoup, je vous rappelle que l'IPO en novembre 2024 à 10,35 €, mais depuis, mon cher Antoine, beaucoup de révisions en baisse des perspectives. Avertissement en décembre 2025 sur son ARR autour de 2 millions d'euros. Résultat 2025 vraiment pas top. Quasiment 8 millions de pertes d'exploitation, perte nette 7,4 millions. Le problème de ce dossier, c'est que ça vaut 40 millions d'euros de valo contre un chiffre d'affaires de simplement 1,7 million. Je vous rappelle qu'à l'IPO, je les avais vus, ils prévoyaient 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on en est bien loin. Mais c'est quand même l'un des seuls purs players de l'IA qui a doublé par rapport à son plus bas annuel le 20 mai à 3,35 €. Maintenant, après la hausse qu'on a connue, je n'en ferai pas plus parce qu'encore une fois, on n'a pas de chiffres dans ce contrat. Donc, il faut savoir raison garder sur ce dossier.
Tiens, puis on va terminer avec, c'est un peu les thématiques de notre émission aujourd'hui. Il y a la défense. On a Figeac Aéro aussi. Là, bonne semaine.
Alors là, oui, Figeac Aéro. Alors, que fait Figeac? C'est un sous-traitant aéronautique, pièces de structure et de moteur. Chiffre d'affaires avec Airbus 39%, Safran 20%. Ils ont 10 ans de chiffre d'affaires puisque le carnet de commandes est de 4,8 milliards. La publication, puisque l'exercice décalé la semaine dernière, 486 millions d'euros de chiffre d'affaires, hausse organique 15,8%, marge à 16%, free cash flow de 36 millions d'euros, la dette nette n'est plus qu'à 263 millions d'euros. Donc tous les indicateurs sont au vert. En plus, le titre n'est pas cher du tout avec une VE sur EBITDA de 10. Et puis vous avez une famille, la famille Maillard, qui est actionnaire principal du groupe et ils ont déjà indiqué qu'il pourrait y avoir à terme, pourquoi pas, une cession. Donc ça me paraît être un beau petit dossier. Rappelons que ça vaut 527 millions de capitalisation boursière et qu'en termes de performance boursière, ben, c'est simplement plus 7,8% depuis le début de l'année. On vaut autour de 12 euros. On a connu un plus haut dans les 10 dernières années à 23 euros. Mais c'est un beau petit titre dans le secteur de la défense. On parle beaucoup d'Exile, on parle beaucoup d'Exocents. Il faudra parler de Figeac Aéro.
Eh bien, merci Eric Lewin. On a fait le point vraiment sur les deux secteurs qui nous intéressent le plus dans cette émission, à savoir l'IA et bien sûr la défense. On va terminer, je sais que c'est un secteur qui vous intéresse aussi, par le luxe. On va beaucoup parler d'Hermès dans les prochaines minutes. Et oui, le marché incroyable des sacs à main d'exception. Alors là, il y a des sacs à main exceptionnels. Il y a plus exceptionnel que l'exceptionnel encore. Et on va en parler avec les experts de Christie's dans quelques secondes. À tout de suite.
Tout pour investir, le coffre-fort.
Mais voilà qui est fait, il est ouvert. Et nous recevons Lucile Andréani de Christie's. Bonjour.
Bonjour.
Spécialiste d'un marché qui nous intéresse, qui vous intéresse et qui est un véritable objet patrimonial, qui est le sac à main. Voilà, et on peut parler de telles prises de valeur, vous allez voir dans quelques secondes, on a des pièces absolument exceptionnelles. Mais encore une fois, et j'en parlais avec une collègue tout à l'heure, qui disait, non mais il y a certaines choses que j'ai financées, certains projets que j'ai financés dans ma vie, alors pas forcément de l'immobilier, des choses monstrueuses, mais que j'ai financées parce que j'avais des sacs à main de valeur, de grand prix, qui ont pris une valeur absolument dingue et qu'on ne soupçonne pas et qui constituent de vraies réserves de valeur. Et on va en parler aujourd'hui parce que, alors déjà, on va parler un petit peu de l'exceptionnel dans l'exceptionnel. Déjà, vous lancez aujourd'hui, c'est aujourd'hui, et jusqu'au...
C'était la semaine dernière.
C'était la semaine dernière.
Mais ça se termine mercredi.
Donc voilà, là, ça se termine mercredi.
Il nous reste quelques jours jusqu'à la fin de la vente.
J'ai dû me gourer de semaine. C'est pas grave, mais on est encore dedans. On va parler d'Hermès.
Avec plaisir.
Ça, on pourra en parler pendant des heures. Mais attendez, on va parler de l'exceptionnel. Déjà, Hermès, c'est l'exceptionnel. On va parler de l'exceptionnel chez Hermès. Donc là, exceptionnel au carré. Et il y a deux pièces absolument dingues qu'on voulait vous présenter en image et qui se passent de tout commentaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces objets?
Avec plaisir. Je suis contente de venir ici et d'avoir une vente en cours parce que parfois on parle et puis c'est un petit peu théorique et puis voilà, il y a des pièces exceptionnelles, des choses qui sont déjà passées en vente, des choses qu'on a envie d'avoir en vente. Et quand on construit une vente et qu'on a la chance d'avoir des pièces qui sortent vraiment de l'ordinaire, qui sont d'un niveau exceptionnel, c'est un plaisir pour un spécialiste. Ça fait presque 15 ans que je travaille sur ce marché et de temps en temps, on a quand même des pièces qui nous surprennent et qu'on a vraiment plaisir à présenter. C'est vrai que là, dans la vente, on a deux pièces qui sont exceptionnelles. Vous avez donc le petit faubourg qui est incroyable. Je pense que vous en avez peut-être entendu
c'est
parler.
C'est celui-là, là.
Ouais. Incroyable.
Truc incroyable.
celui-ci est pas mal. Ouais. Le blanc.
Pour ceux qui nous écoutent à la radio, c'est donc un sac Kelly Hermès, mais qui est refait, exemplaire unique, commande spéciale d'un client, avec dessus la façade de la boutique Hermès du 24 Faubourg.
C'est pas une commande spéciale, c'est une édition limitée. C'est et dans cette édition limitée, en fait, c'est intéressant parce que le marché a été un petit peu dominé par le sac Himalaya qui était le top des pièces à avoir en tant que collectionneur et ça a été remplacé par le Birkin Faubourg. Donc vous l'avez en plusieurs couleurs. Ça a commencé en bleu et marron, ensuite il y a eu le noir, le blanc. Et le blanc, dernièrement, s'est vendu à Hong Kong pour plus de 500 000 dollars. Donc c'est quand même pour vous donner une idée des valeurs.
Oui, non mais on prend une idée du truc.
Voilà.
C'est une claque.
Évidemment, les mises à prix sont à des niveaux qui sont toujours accessibles. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent quand même tenter et on verra jusqu'où ça va. Mais c'est assez intéressant pour moi avec la vente aux enchères parce que effectivement c'est très difficile d'avoir un sac exceptionnel chez Hermès. En vente aux enchères, vous avez juste à vous connecter. Exactement. Et à tenter. Et j'aime beaucoup pouvoir donner aussi accès à certaines personnes à des pièces qui peut-être paraissent inaccessibles. Donc quand on a donc le petit faubourg blanc que j'adore, mais on l'a aussi en rouge. Et le rouge, c'est le niveau encore supérieur de cette pièce. Parce qu'en fait, le blanc, il y a eu pas mal d'exemplaires. On en a vu beaucoup en vente aux enchères. Le rouge, apparemment, moins de 10 ont été produits. Donc c'est une toute petite édition limitée.
Ah oui, là, faut...
Je connaissais très 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 peu de personnes qui y avaient eu accès et on a eu la chance d'en avoir un dans la vente. Donc je dirais que le faubourg, qui est considéré comme une des pièces les plus recherchées aujourd'hui, on a la version la plus rare qui existe de ce modèle qui est en rouge. Donc pour moi, c'est vrai que c'est une pièce, voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir une pièce comme celle-ci en vente. Et en fait, c'est aussi une pièce qui n'a pas été vue par un très grand nombre de personnes intéressées. C'est-à-dire que voilà, son existence était un petit peu un mythe. Très peu de personnes l'ont eu, donc très peu de personnes l'ont montré. Mmh. Donc ça, c'est vraiment sympa. L'autre pièce dont j'avais envie de vous parler, c'est une Kelly Pochette qui cette fois-ci est vraiment une commande spéciale. C'est un client qui, en fait, a fait réaliser le sac de ses rêves. Ce qui est quand même un petit peu le rêve de tout le monde. Quel que soit le niveau, voilà, ça peut être pour des chaussures, ça peut être pour quoi que ce soit,
oui, parce que
un appartement, etc.
J'allais vous dire, vous allez chez Hermès, vous devez être quand même être un client sacrément exceptionnel pour vous permettre de dire, ouais, dites donc Hermès, moi je veux une pièce unique.
Ouais.
C'est quelque chose de fabuleux.
Et en même temps, j'aime beaucoup voir le résultat parce que c'est très personnel. C'est en fait, voilà, quel est le sac de vos rêves? Donc là, c'était une petite pochette, une Kelly pochette.
Donc on part d'un modèle de base, voilà.
Oui, voilà, c'est un modèle classique. Vous pouvez avoir la version en cuir, vous pouvez avoir des pièces qui ont été produites en un certain nombre d'exemplaires, des éditions limitées évidemment, mais là, vous n'avez même pas une commande spéciale, c'est Horizon. Donc, c'est-à-dire que vous avez carte blanche sur le choix des matériaux et le design final.
Et c'est la filiale One-Off.
Exactement. Voilà. Et ça, pour moi, c'est exceptionnel parce que c'est vraiment des pièces qui sont uniques. Donc, on n'aura jamais une pièce similaire sur le marché et on n'a jamais eu une pièce similaire précédemment.
Là, on est sur la haute couture, c'est-à-dire
exactement.
Que c'est... Mais c'est quand même vachement intéressant parce qu'on voit énormément d'experts du secteur du luxe qui passent chez nous, qui passent dans BFM Bourse, qui nous disent « Attendez, secteur du luxe, maintenant, effectivement, ouais, il y a des années d'attente maintenant pour certains modèles un petit peu standards de chez Hermès. Maintenant, voilà, on préfère plus l'expérientiel. » Attendez, l'aventure d'aller chez Hermès et de concevoir un modèle unique rien que pour vous, si ce n'est pas une expérience, ça.
Donc, non, mais c'est ça le
truc, en fait. C'est une expérience en soi, cet objet.
Je trouve. Et en fait, je pense que pour moi aussi, de voir un petit peu le niveau de sophistication qui a été finalement avec tout le process de création est assez intéressant parce qu'en fait Hermès utilise très très peu de plumes sur des sacs, c'est vraiment très 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 rare. Et je pense qu'ils n'ont pas du tout envie que le sac de rêve de trop de personnes soit avec des plumes parce que c'est un travail difficile, qui demande un vrai savoir-faire du travail de la plume. Donc, c'est des pièces qui n'existent quasiment pas. Et c'est vrai que je pense qu'il y a ce côté d'attente, ce côté d'expérience.
Organiser en fait, la rareté aussi.
Exactement. Mais je crois que pour moi, pouvoir en fait donner accès publiquement à des pièces qui peut-être n'existaient pas, qui... En fait, qu'on n'avait même pas imaginé.
Ouais.
C'est un petit peu aussi un autre niveau. Et c'est vrai que c'est beaucoup de plaisir quand on monte une vente avec des pièces comme celle-ci, parce qu'en fait, on ouvre un petit peu. Et il y a un côté aussi un petit peu, je dirais, une mission d'éducation, c'est-à-dire voilà, présenter un petit peu les pièces, expliquer leur histoire, expliquer leur rareté et permettre en fait finalement d'expliquer un petit peu mieux ce marché. Mais c'est vrai que on n'a pas toujours des pièces exceptionnelles. Il y a des fois des ventes qui sont peut-être un petit peu plus commerciales, qui donnent accès des pièces qui sont effectivement difficiles à avoir sur le marché. Et puis il y a des ventes qui voilà, en tant que spécialiste, vous réjouissent. Et ça voilà, j'étais contente de présenter ça aujourd'hui.
Bah merci beaucoup. C'est vrai que là vraiment on a deux sacs exceptionnels. Donc la vente
est en cours. Elle dure jusqu'au 24, hein, très précisément.
Et l'exposition commence demain.
Voilà, 130 lots au total. Et c'est le très haut artisanat et puis c'est de l'art, hein, d'une manière ou d'une autre. On en revient toujours là. Lucile Andréani de chez Christie's, merci infiniment de nous avoir parlé de cette vente et de ce marché fascinant. Demain, tout pour investir, la masterclass avec Christopher Dembick. Et tout de suite, je vous laisse avec Marie-Cœur de Roy, les Experimo. À bientôt.
Tout pour investir sur BFM Business.